Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose que nous fassions donc notre lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. C'est là où va se situer notre partage, notre réflexion. Livre de la Genèse, est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter mes lunettes? Je me suis trompé de lunettes, et vous savez, quand on vieillit, ça pose, merci, t'es gentil. Voilà, alors je reprends, excusez-moi pour ce petit intermède. Alors, livre de la Genèse, chapitre 26, et nous allons lire les quelques premiers versets, et nous reprendrons ensuite. Voilà. Alors, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Il y a beaucoup de choses à apprendre et qui nous donne de comprendre la suite de toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. C'est important. Alors, verset premier, Genèse 26. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment, la promesse, que j'ai faite à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. » On va aller un petit peu plus loin à partir du verset 12 et nous allons lire quelques paroles. « Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Ainsi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière, et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle. Et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Vous avez certainement lu et relu probablement ce passage. Hein, c'est une histoire où il nous est quand même pas trop parlé d'Isaac, mais là c'est quand même intéressant de tirer quelques leçons, parce que ça touche à notre foi, à notre confiance, et il y a un mot que je relève, nous en donnerons la traduction, le mot « Rehoboth ». Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mise au large. Mise au large. C'est-à-dire affranchi, libéré. Et c'est vrai que c'est une aspiration de tout homme, mais en particulier des enfants de Dieu. Et notre foi dans l'Évangile, nous amène véritablement à comprendre tout le sens d'être mis au large. C'est-à-dire de pouvoir respirer. Respirer, naturellement, l'air qui nous environne, mais une respiration morale, une respiration spirituelle et de pouvoir, eh bien, tout simplement, après avoir vaincu ou surmonté nos ennemis, et les ennemis ne sont pas seulement à l'extérieur, ils peuvent être aussi à l'intérieur de nous-mêmes, de pouvoir respirer librement, spirituellement et moralement. Donc, nous avons ce récit qui nous est donné dans le livre de la Genèse. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'Isaac, vous connaissez la signification de son nom. Ça veut dire rire. Eh bien, permettez-moi de vous dire tout de suite, dès l'abord, que Isaac n'a pas ri tous les jours. Ça, c'est sûr. Et c'est un peu le condensé de l'histoire qui ressort finalement de ce que nous avons devant les yeux. Oui, ça veut dire rire. Et quelquefois, même nous en tant que chrétiens, on chante des cantiques joyeux, avec enthousiasme, etc., etc. Mais il arrive par moments où nous n'avons vraiment pas envie de rire. Parce que bon, il y a des circonstances, il y a toutes sortes de choses dans notre environnement, peut-être même dans notre propre cœur, qui peuvent être des sujets de tristesse et de découragement. Alors, nous voyons qu'à travers ce rapport qui nous est fait, eh bien, cela nous enseigne, d'une manière très, très simple, les principes fondamentaux de la vie par la foi. Comprenez bien, nous sommes tous à désirer vivre en marchant, en suivant le Seigneur. Bien que ce Seigneur, on ne le voit pas. Il demeure toujours invisible. Mais on le dit, on le répète, eh bien, il est là. Hein? Il n'est pas seulement, quand les chrétiens sont rassemblés comme ce matin, ici ou ailleurs, il n'est pas seulement avec moi, avec nous, lorsque nous sommes dans nos maisons, mais il est encore plus près que cela, il est en moi. Le Seigneur a fait sa demeure en moi, votre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit l'apôtre Paul, et ça je le répète depuis quelque temps parce que j'en suis tout à fait convaincu, c'est une chose fondamentale. Donc la vie par la foi. Et il nous donne aussi cette leçon, notre brave Isaac, eh bien c'est l'art de la patience. Vous êtes patient ? Ça va, personne ne va me répondre en disant « moi je suis l'homme le plus patient de toute la terre ». Voilà, bon, hein. Mais bon, on sait que vous touchez à la perfection, c'est bien, et je vous complimente, et moi ça me réjouit. L'art de la patience, de la persévérance alliée à la patience, et de supporter, dois-je le dire, les oppositions. Ça va, tout va bien? Pas de problème avec vos voisins? Avec votre patron, avec vos collègues? Pas d'opposition, le ciel est bleu, tout est dans le meilleur des mondes. Donc, supporter les oppositions, parce qu'on n'est pas tout seul dans la vie. Eh oui, il y a là toutes sortes de choses. Et pourtant, quand on regarde un peu le comportement d'Isaac, la Bible nous dit un peu ailleurs, elle nous dit que c'était un homme tranquille. Alors, quand on est un homme tranquille ou une femme tranquille, pourquoi ils viennent nous chercher les autres des histoires? C'est vrai? Je suis bien sage, je suis gentil, je n'embête personne, et il faut toujours qu'il y ait finalement des gens qui me cherchent des histoires. Donc les oppositions, mais il faut dire aussi, c'est que il avait au fond du cœur Isaac, eh bien cette connaissance, c'est qu'il savait qu'il était héritier. Et ça change tout. Héritier des promesses qui ont été faites à son père Abraham. Et ça change tout. Vous savez que nous avons des promesses de la vie présente et de la vie éternelle à travers Jésus-Christ. La parole nous le dit, et nous nous nourrissons dans nos temps heureux ou dans nos temps plus difficiles, malheureux, des promesses que nous donne le Nouveau Testament, l'Évangile et la personne de Jésus-Christ, rappelées par le Saint-Esprit. Et ça change tout. Quand nous sommes sans espérance dans ce monde, comme nous l'avons été avant de nous tourner vers le Seigneur, on se donne quelques philosophies d'existence. Mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais quand on est héritier, eh bien, ça change tout. Donc le contexte, parce que moi j'aime bien l'Ancien Testament, parce que il y a quelque chose qui nous rappelle. C'est pas le passéisme, c'est pas l'ancien temps, parce que bon, il y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vrai. Mais ça nous rappelle quelque chose de très sensible pour nous amener à comprendre ces belles histoires de la Bible. Il s'agit du pastoralisme, on peut dire ça, des anciens, des patriarches. Alors Abraham, etc., vous savez, ils avaient une profession, ils n'étaient pas au chômage, et ils avaient une famille très nombreuse, avec des serviteurs, avec, nous allons le voir et nous l'avons déjà vu, avec quelquefois une formidable réussite. Moi je dis qu'un chrétien fidèle, il réussit, quoi qu'il en soit, mais c'est pas pour ça qu'il va pas avoir des problèmes et des difficultés. Le pastoralisme des anciens, qui reposait autour de, ils n'étaient pas aussi encombrés que nous dans notre vie moderne, ça reposait tout simplement sur le berger, sur le cheptel. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons, il y avait certainement du plus gros bétail. Et la préoccupation, c'était de trouver des pâturages, comme dans la transhumance, vous savez, dans nos montagnes. Et ils étaient donc nomades. Donc, ils pouvaient pas dire, eh bien, moi, j'habite ici, j'habite là, parce que les adresses, les pauvres facteurs, ils savaient pas où déposer les lettres. Hein, parce que ça bougeait toujours. Mais enfin, bon. Et puis, il y avait naturellement, eh bien, de pouvoir faire des puits. Et de ces puits, si la recherche était heureuse, de trouver de l'eau. Et là, c'était la vie. La vie pour les hommes, la vie pour les animaux, etc., etc. Ceci dit, nous voyons que l'histoire commence, et nous l'avons lu, par ces mots, il y eut une famine, désespérance. Nous, on connaît pas ça dans nos pays, hein, bien que certainement, pendant les dernières guerres, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, et il y avait des gens qui, certainement, souffraient cruellement de la faim. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je crois qu'on est 7,5 milliards, et vous savez qu'il y a une grande partie, parce que ça se compte en millions, d'hommes, de femmes, d'enfants qui n'ont pas à manger. Hein. Nous, on prend 3 repas par jour, hein. C'est vrai, dans la moyenne, puis on mange ce que l'on veut, c'est à discrétion. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on sait que encore aujourd'hui, dans des pays où il y a tant de richesses, il y a encore des gens qui souffrent de faim. Donc il y a une famine, ça commence comme ça. Et dans ce genre de circonstances indépendantes de la vie des hommes, parce que la famine, elle peut venir parce qu'il n'y a pas de pluie, parce que bon, voilà, il y a les sauterelles, enfin, dans ce temps-là, et puis toutes sortes de facteurs indépendants de la volonté des hommes, c'est la tentation de fuir. Et peut-être le redire, quand il y a eu certainement un mouvement de la part d'Isaac de peur, de crainte, quand la famine s'est appesantie sur le pays, Dieu lui parle tout de suite. Dans nos famines, Dieu parle, quelle que soit la nature. Et écoutez bien, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, triste souvenir de son père Abraham, qui est allé en Égypte parce qu'il a eu peur, aussi de la famine, et ça lui a coûté cher à Abraham. Alors ne descends pas en Égypte, je te demande de rester dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, je te donnerai toutes ces contrées, je te tiendrai, et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père, etc., etc. » Dans les temps de crise de la vie, nous avons besoin d'être rassurés. Et qui peut mieux que Dieu, ou l'Esprit qui est en nous, nous rassurer? N'aie pas peur, n'aie pas de crainte, tu n'as rien à, finalement, à redouter. Je suis là. Nous sommes à la recherche, finalement, de telles paroles. Alors, ça peut venir par la lecture, ça peut venir par une prophétie, ça peut venir par un frère, une sœur. Combien nous avons apprécié lorsque nous avons passé des moments difficiles? Non pas que j'ai entendu dire que c'était rien, c'est pas grave, mais ça fait pas mal. Mais en tous les cas, des paroles bienveillantes pour nous dire, mais le Seigneur est là et tu vas t'en sortir, le Seigneur va t'aider. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile à saisir et à vivre sur le moment, mais néanmoins, ce sont des paroles de Dieu. Moi, pour moi, je les ai reçues telles. Alors, je multiplierai ta postérité. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. On le voit aujourd'hui, ça s'est confirmé, hein. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Vous savez, quand on a eu la chance d'avoir des prédécesseurs croyants ou chrétiens, c'est certainement pour un enfant, un jeune, quelqu'un qui rentre de la vie, le plus grand trésor dans lequel nous pouvons puiser l'exemple fidèle de ceux qui nous ont précédés, parce qu'il a observé mes commandements. Et voyez, ce mot, dans ce premier paragraphe, se termine, cette petite histoire se termine, et Isaac resta à Guérar, dans la famine, dans les problèmes qu'il va connaître, parce qu'ils nous sont dits, à travers toutes sortes de situations. « Mais Seigneur, tu pourrais pas m'envoyer peut-être dans une autre contrée, quelque chose de plus souriant, de plus agréable ?» C'est l'histoire de Ruth, hein, vous connaissez. Eh oui, et à travers des péripéties pas possibles, hein, les chagrins de Ruth, on les connaît. Hein. Alors, tentation de fuir. Seigneur, est-ce que je dois rester dans cette situation? Est-ce que je dois continuer à souffrir? Est-ce que je dois demeurer dans cet état? Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose pour moi? Quelquefois, eh bien, ça reste latent, ça reste comme ça. Que faire? Vous savez qu'un puits, parce que maintenant on a l'eau courante, vous avez l'eau courante chez vous, hein, je crois, non? Bon, ben vous êtes privilégié. Privilégié, je vous dis, parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, pas ici, mais ailleurs. Un puits est l'indispensable ressource de la vie. Sans eau, on meurt. Ah oui, ça, c'est pas possible. Imaginez-vous que notre pays, ou nos pays occidentaux, il n'y ait plus d'eau. l'industrie, le commerce, la vie, le mouvement, enfin je veux dire la circulation, il n'y aurait plus rien. Parce que l'eau, c'est véritablement l'essentiel. Et nous pouvons peut-être tout de suite dire qu'Isaac, qui ne riait pas là, à ce moment-là, il avait un nom qui, eh bien finalement, ne lui convenait pas. Il n'est pas bien habillé avec son nom, hein, rire. Isaac nous laisse ici une formidable image du savoir, comment je dis, ce qui pourrait vous plaire, du savoir survivre. Il y a des temps dans la vie où nous ne vivons pas, mais nous survivons. On ne sait pas du quel côté la balance va aller. Et on se dit, mais on est dans l'expectative. Vous savez, quand on est bien, bien physiquement, bien moralement, bien spirituellement, on ne se préoccupe pas au jour du bonheur, réjouis-toi. Alors profitez-en. Si vous n'avez pas de problème, réjouissez-vous. Mais au jour du malheur, réfléchis. Et c'est vrai que on passe parfois dans des moments où vraiment c'est de la survie, l'incertitude. Et puis on se pose mille et une questions, ce qui n'arrange pas les affaires. Hein. Jésus nous en parle, des inquiétudes et tout ça. Savoir survivre devant les aléas et les événements qui sont contraires. Vous avez plein d'histoires dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, où les vents ont soufflé très fort sur certains hommes, et particulièrement, je dirais, sur certains protagonismes mis en avant des hommes de foi, des prophètes, et des hommes qui étaient appelés à vivre de grandes choses dans le service de Dieu. Donc, événements contraires. Et nous pouvons dire, et c'est peut-être un sujet de prière pour chacun d'entre nous, le recours d'Isaac, son recours, était précisément de discerner le sens et le but et les leçons divines à retirer des circonstances. Il nous est dit qu'au reste, frères, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. On est capable de le restituer les uns et les autres, c'est un des versets les plus connus comme avec Jean 3,16. Ah oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça c'est quelque chose qui est gravé au plus profond de nous-mêmes. Mais si on décompose un peu les choses, le sens de ce qui m'arrive, le but, parce que la vision quelquefois c'est comme ce matin, il y avait beaucoup de brouillard, on est un petit peu dans la brume, et les leçons divines à retirer tout simplement des circonstances. Eh oui, nous passons parfois par ce qu'on pourrait appeler la discipline divine, qui n'est pas la punition, qui n'est pas la rigueur de ce Dieu de loi, parce que c'est un Dieu de grâce, notre Dieu. Moi, c'est celui que j'ai choisi en tous les cas. Et on s'aperçoit que quelque part, eh bien, il nous traite comme dans Hébreux chapitre 12, comme un bon père. Je suis un enfant légitime. Est-ce que vous croyez que vous êtes un fils légitime, une fille légitime? Bien sûr. Et il nous est dit que Dieu nous fait passer par ce genre d'expérience d'expérience, afin que nous participions à sa sainteté. Moi, ça m'a frappé dernièrement. Je me suis dit, tiens, parce que bon, on le lit, on le relit, on connaît la Bible, on la connaît autant qu'on puisse, sans, en toute simplicité de le dire. Mais une chose qui est certaine, il nous a appelés, il nous fait passer par des situations comme ce qui s'appelle Isaac, par exemple, et d'en connaître le sens, le but, et ses leçons essentielles, et de savoir que finalement tout ça, ça nous sert. C'est pas gratuit, hein. Dieu n'est pas malicieux pour nous dire, eh bien, celui-là, je vais lui en faire voir, il va rentrer dans le ciel, mais il va savoir ce que c'est que la vie. Non, c'est pas ça, hein. Un père digne de ce nom, un père humain, ne ferait jamais des choses comme ça avec ses enfants. À moins que ce soit un dénaturé. Bon. Mais autrement, c'est pas ça. Les circonstances. Alors je m'interroge, naturellement. Et il y a, je pense, deux vertus, deux qualités que nous avons besoin de demander au Seigneur quand nous sommes dans ce genre de choses, quand nos puits sont rebouchés, quand nous sommes dans la famine, et qu'à ce moment-là, eh bien, il y a deux choses que nous pouvons demander au Seigneur, c'est qu'il me rende flexible et qu'il me donne cette adaptation à sa pensée, à sa volonté. Quand nous avons un élément qui est raide, qui est rigide, qui est rugueux, etc., etc., paf, ça ne bouge pas, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que Dieu nous a fait des os dans notre constitution physique, mais il a mis des muscles pour que ça bouge. Imaginez-vous, si on n'était que des os, c'est pas beau d'abord. Vaut mieux quand même être habillé. Et il y a des muscles, il y a des tendons, il y a toutes sortes de choses, c'est ce qui donne la flexibilité et la beauté du corps, naturellement. Et Seigneur, rends-moi flexible en toutes circonstances, en toute occasion ou en toute rencontre qui pourrait être quelque part, non pas seulement des contrariétés, mais des choses qui vont beaucoup plus loin. Adapte-moi aux circonstances que je traverse. Isaac avait compris ça. Et on va en voir les résultats. En fait, ce fils d'Abraham, Isaac, cherche son secours en haut pour être béni en bas. Un puits, c'est vraiment en bas, hein? C'est même pas en surface. Un puits, c'est encore plus profond. Et on va voir finalement ce qu'il y a en haut et ce qu'il peut y avoir au fond du puits. C'est intéressant, ce sont des images. Et il cherchait donc la volonté de Dieu. Il s'en est pas départi. Il avait un problème en bas. C'est-à-dire, c'était ses puits. Et au lieu de se crisper, tout simplement dans l'adversité. J'ai remarqué dans les églises qu'il y a quelquefois de grandes crispations chez certains des frères et des sœurs. Des crispations. Ils sont là devant, à buter devant une chose et ça peut pas aller plus loin. Crispation. Non. Je pense qu'il faut apprendre à ce que l'esprit qui est en nous nous rende souple, nous rende disponible à écouter et à vivre, à faire. Il a créé en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Naturellement, c'est lui qui l'a créé. Si j'ai pas compris que c'est lui qui l'a créé, ça va pas aller. Le vouloir, parce que ma volonté quelquefois est à la traîne. Le faire, la pratique de cette volonté, selon son bon plaisir. Et c'est ça ce que je crois qu'Isaac avait compris, le bon plaisir de Dieu. Et nous nous apercevons que Isaac a su réagir. Nous sommes au bord de la mer ici, hein. On est bien, hein. C'est vrai, c'est sympa, hein, la région, hein. Et il a réagi comme les bateaux dans un port. Alors, je vais vous donner un petit peu l'explication. Hein, ceux qui habitent là, près de... Hein, on n'est pas loin, on est à 200 mètres. Et vous avez vu les bateaux? Alors, ils sont là, ils peuvent être quelquefois par milliers. Hein, quand vous allez dans les ports nautiques là, de la côte, vous avez des centaines et des milliers de bateaux. Hein. Alors, il y a un phénomène qui se passe. C'est que les bateaux, vous avez remarqué, ils montent avec la marée. Ah oui. D'ailleurs, il y a des... comment s'appelle, des pieux, on pourrait appeler ça. Puis il y a des coursives, enfin pas des chemins là pour passer en bois. Et vous voyez, ça monte et c'est mouvant, c'est flexible. Enfin, façon de parler, faut qu'il y ait un ouragan. Mais néanmoins, les bateaux y montent. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi, c'est qu'ils descendent de même quand la marée baisse. Je trouve que c'est une bonne invention. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai? Hein, c'est génial comme histoire, parce qu'autrement les bateaux, quand la marée monte, s'ils étaient serrés, s'ils étaient finalement fixés ou figés, ben, vous pourrez plus monter dans le bateau, ou alors à ce moment-là, c'est plus un bateau, c'est un sous-marin. Bien, hein? Mais c'est pas fait pour ça. Ça monte et ça descend. Et ma vie, entre les mains de Dieu, dans le cadre, parce qu'ils sont cadrés les bateaux, hein, dans le cadre, il y a une mouvance, il y a une flexibilité, il y a une élasticité, il y a naturellement... eh bien, tout ce qui est nécessaire pour que, et on s'en aperçoit pas, enfin, on regarde, on voit, quelquefois les bateaux, on les voit tout petits au fond du port, puis quelquefois ils sont au-dessus des quais. C'est formidable, hein. Eh oui, c'est une image, hein, tout simplement, mais ça peut éventuellement nous aider. Hein. C'est le secret de notre force, c'est le secret tout simplement de notre souplesse dans l'épreuve. Et c'est ça ce que je voudrais dire ce matin, la souplesse. Ne pas se crisper, ne pas imaginer des choses qui ne seront pas, parce que notre imagination quelquefois va beaucoup plus loin. Et vous m'excuserez l'expression, mais il y a trop de chrétiens qui s'étranglent. Je ne sais pas si c'est approprié, hein. Mais qui s'étranglent, parce que bon, on sait comment on peut s'étrangler avec une corde. Ils s'étranglent avec les amarres. On revient toujours au bateau, hein. Trop tendues ou trop courtes, et c'est bien dommage. Dieu nous a donné la liberté. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne resserrez pas les amarres, parce que là, avec le légalisme, avec un prétendu mysticisme, avec de l'ascétisme, avec tous les ismes que vous voudrez, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne vivent pas heureux parce que les amarres sont trop serrées. Le Seigneur ne nous serre pas la vis. Le Seigneur nous donne d'être responsables et matures pour pouvoir vivre dans ce monde en jouissant de la liberté et en jouissant du meilleur choix que nous pouvons faire dans nos options. Ça va? Ça va. Eh oui, les amarres trop tendues, trop courtes. Et ça m'étonne pas qu'il y ait parfois des vies chrétiennes médiocres, qui ne s'épanouissent pas, qui sont tristes, qui ne peuvent pas chanter le dimanche matin avec les autres, qui ne peuvent pas prier, qui ne peuvent pas ceci et cela, et qui pleurent sur eux-mêmes, et qui sont quelquefois, eh bien, une tristesse aussi pour les chrétiens, de dire, mais mon pauvre frère, ma pauvre sœur, il y a peut-être un autre chemin, une autre vie, pour que tu puisses vraiment t'épanouir. Moi, ce qui fait mon bonheur, c'est que, il me semble que le Seigneur me donne cette liberté de l'esprit. Oui, je le dis pas parce que je veux le dire et ça rentre dans le texte, mais c'est parce que nous le vivons. Vraiment. Et ça, c'est magnifique et c'est formidable. Maintenant, après, c'est une question de liberté et de choix, hein, naturellement. Mais bon, on se laisse conduire et c'est pas pour ça qu'on est les meilleurs et que... Non. En quelque sorte, la foi, je dis pas la loi, c'est le contraire. Je dirais que la foi serait cet amarre souple. Hein, il y a des amarres, là, on le voit avec les gros paquebots, mais c'est énorme, hein. c'est la ficelle, hein, mais tressée, hein. Alors donc, l'amarre souple qui permet de s'adapter, qui permet le mouvement, l'adaptation à une bonne mesure pour réussir, pour agir et réagir tout simplement librement. Ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Cependant, l'histoire nous dit que, cette histoire dans Genèse nous dit que la foi est un combat. Le bon combat de la foi, nous dit l'apôtre Paul. Et quand il parle de combat, ça semble antinomique, hein. La foi, on sait ce que c'est, et puis le combat. Mais justement, l'un, quelque part, eh bien, est allié avec l'autre, hein. Ils sont tout simplement mis ensemble. La foi est un combat à en juger. Et à en juger, c'est que, après avoir parlé de la famine, on va voir une situation extraordinaire, hein, et on comprend pourquoi il y a des gens qui n'étaient pas contents, hein, qui ont vu ce que faisait Isaac. Il nous est dit donc, Isaac sema dans ce pays, il resta dans le pays de Guérar, mais il sema dans ce pays, il n'est pas resté en regardant la terre qui était brune, desséchée, craquelée, non, il a semé dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, et vous savez, ça fait comme avec Joseph dans sa prison, l'Éternel le bénit. Ça vous plaît ces paroles? Oui. Ah, vous préférez être avec Joseph dans la prison, hein, je pense, hein. Au chaud. À l'ombre. Eh oui. Bon, enfin, c'est votre choix. Bon. Donc, il a dit, qu'est-ce que je fais? Je pleure sur moi-même, je me lamente, voilà, à toutes les larmes de mon cœur. Non. Quand il a semé, il a ensuite moissonné. Eh, stupeur! Et vous rendez compte? Vous rendez compte? Je mets 10 euros à la bourse. Et c'est multiplié par 100. Je fais ça tous les jours, moi, pour compléter ma retraite. Oui, oui, bah, je vois Philippe qui me dit, oui, c'est une bonne idée, tiens. Voilà, le centuple. Imaginez-vous, mais l'Éternel le bénit, mais Seigneur, arrête, tu me bénis trop, j'en peux plus. Bon. Car l'Éternel le bénit. Après, dans la famine, dans le contexte, hein, on l'a exposé, Isaac va semer dans une terre étrangère, parce qu'il n'est pas chez lui. Hein. Semer dans une terre étrangère, semer dans une terre hostile, semer dans une terre où on n'aurait jamais la pensée de faire quelque chose et de récolter quelque chose, naturellement. Eh bien, c'est souvent ce que Dieu nous demande dans notre vie spirituelle. Jette tes filets, puis on dit, Seigneur, un, ça suffira. Hein. Connaissez l'histoire. On est un petit peu timide quand même, hein, timoré. Hein. Et voilà que les résultats de tout cela, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est quand même une drôle de phrase. Hein. Vous vous rendez compte? C'est formidable. Hein, à faire saliver tous ceux qui veulent faire fortune et tout ça, enfin saliver ou tout ce que vous voudrez. Hein. Bon, il alla s'enrichissant, fort riche. Alors il nous a donné un petit peu l'état de son cheptel, on en reparlera d'ici quelques instants. Mais toujours est-il que il s'enrichit, Isaac, au-delà de toute mesure. Et là, Isaac avait retrouvé le sourire. Quand vous suivez toujours tout simplement la signification. Et cette remarque qui vient après, les Philistins lui portèrent envie. C'est pas beau, hein? C'est pas beau d'avoir envie de ce que l'autre a. C'est pas beau de dire, ah bah oui, mais il a ça, moi j'ai pas ça. Donc les seigneurs l'aiment plus que moi. Là, vous faites des idées. Hein. Parce que le Seigneur, il est le Seigneur de tous, mes frères et sœurs. De tous. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de favoritisme. Et les Philistins lui portèrent envie. Ils sont venus voir Isaac en disant, dis donc, toi, t'es l'étranger. Hein. Comment ça se fait que dans notre terre, toi, tu arrives à faire des choses que nous, on ne peut pas faire? Ah, c'est le petit secret. Hein. C'est le secret qui vient d'en haut. Celui qui l'est au-dessus. Hein. Ce sont des bénédictions au regard de tous les... l'environnement d'Isaac. Ce sont des bénédictions qui sont incomprises. Et parce qu'elles sont incomprises, elles sont convoitées, tout simplement. Et ça, on parle du fléau de la jalousie. Mes frères et sœurs, s'il y a une carie, s'il y a un cancer, s'il y a une plaie, une calamité au milieu des hommes, c'est la jalousie. Vous n'êtes pas d'accord? Oui. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. C'est pas possible, la jalousie. Être content de la part que Dieu nous a donnée. On pourrait avoir davantage. On pourrait peut-être disposer de toutes sortes de choses. Le monde est ouvert, nous le voyons. Moi, quand je regarde ce que les autres ont, quelquefois à la télévision, hein, comme je regarde un peu les séries américaines avec les grosses voitures, les maisons avec des piscines, je dis à Myriam, quelquefois souvent, je lui dis, dis donc, on devrait quand même s'exiler aux États-Unis, surtout que quand même, il y a une politique actuellement qui est quand même, c'est pas une politique de pauvres, hein. Ouais, elle me dit, non, reste là, elle a raison. Bon. Mais le fléau de la jalousie, c'est d'être malheureux du bonheur des autres. Ouais, c'est vraiment convoité. Et peut-être quelquefois, la jalousie, ça va jusqu'au crime. Hein, c'est pas... Enfin, on comprend bien le mot, hein, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Alors, il nous est dit, on comprend que les autres, ils n'ont pas été contents. Il avait des troupeaux de menu bétail, de gros bétail, des serviteurs en grand nombre. Vous voyez, quand vous êtes riche, vous n'avez même plus besoin de travailler vous-même, c'est les autres qui travaillent pour vous. C'est pas mal, hein? Ainsi, les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits, et là, c'est intéressant, tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, donc Abraham, du temps d'Abraham, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et nous sommes au cœur de notre message. Ah, parce que là, on en arrive à cette histoire de puits. Hein. Au cœur de la tourmente, la famine, mes frères et sœurs, il ne faut jamais oublier que Dieu tient parole, même si le temps a passé. Même si les mois et les années, autrefois, hier, Dieu a mis à cœur une pensée, et que sa réalisation va demander peut-être quelques décennies, Dieu tient parole. Je vais vous le prouver. On a lu tout à l'heure au verset 3, c'était la première S1 qu'il a reçue. Donc, le verset 3, que je le retrouve, alors j'ai trouvé le verset 2, je ne sais pas où il est le 3, ah oui, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, dit Dieu à Isaac, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité, et je tiendrai serment, je multiplierai ta postérité, etc., etc. » C'était déjà une histoire ancienne, hein, certainement pas très très longtemps, mais néanmoins, il était resté sur la promesse de Dieu, et resté sur les promesses que Dieu a mis dans votre cœur. Vous peut-être vous lamentez en disant, mais Seigneur, tu ne l'as pas fait encore. Seigneur nous répond, attends. Et là, attends, c'est dur. Hein. Ça, c'est sûr, que c'est pas évident d'attendre. Et nous avons, tout simplement au verset 24, on ne l'a pas lu le verset 24, mais il va réentendre exactement les mêmes promesses parce qu'il est resté là, en pleine famille, sur un terrain et sur une terre étrangère. Et là, au verset 24, il nous est dit tout simplement, l'Éternel lui apparut dans la nuit, après tous les déboires qu'il a pu connaître, et lui, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. C'est exactement les mêmes mots qui avaient été dits hier et qui sont en train d'être reconfirmés. Mais avec un élément, c'est qu'il a fait déjà une belle expérience entre temps. Pour nous dire, continue, Isaac. Vas-y, n'aie pas peur, continue. Oui, Dieu tient parole. Le verset 16. Abimélec, qui est le roi de la contrée, hein, c'était les petits roitelets, hein, faut pas s'imaginer à Louis XIV. Bon. En tous les cas, Abimélec dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Ça veut dire qu'il était pas chez lui. Car tu es beaucoup plus puissant que nous, il reconnaît, hein, qu'il y a quelque chose de particulier. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. C'était un émigrant permanent. C'est quelqu'un qui allait d'un endroit à un autre. On avait dit qu'ils étaient déjà, de par leur état, eh bien, un nomade. Quand on voit que sans broncher, on dirait aujourd'hui sans piper, alors que le roi lui dit maintenant tu t'en vas, hein, ça commence à bien faire, tu es trop riche et puis voilà, tu es trop puissant. Hein. En quelque sorte, quand on voit l'attitude d'Isaac, ça ressemble à s'y méprendre à une retraite, en quelque sorte, à une défaite. Ça voudrait dire qu'Isaac, ben, il a peur et puis voilà, il a pourtant bien réussi là, mais bon, il craint les hommes. Hein. Non, c'est ni une retraite ni une défaite. Isaac est avant tout, il a une qualité qui nous est réclamée, il est un débonnaire. Qu'est ce que c'est que la débonnaïeté? C'est, dites-moi, c'est pas Jésus qui en parle dans les béatitudes? Et vous savez ce qui est dit des débonnaires? Ce sont les débonnaires qui hériteront la terre. C'est précisément ce qu'on est en train de dire ce matin. Hériteront la terre. C'est-à-dire des gens qui sont doux. Des gens qui cherchent pas des histoires avec les autres. Bon, tu le veux, tu le prends. C'était à moi, mais voilà, tu le veux. Alors quand c'est un don qui est fait par le Seigneur, ça va. Mais quand c'est un vol, c'est autre chose. Et là, c'était quasiment entre à mi-chemin entre le vol et puis, voilà, tu t'en vas maintenant, tu dégages. Hein. C'était un débonnaire dont la stratégie est étonnante. Il partit de là. Vous vous rendez compte, il abandonne tout. Ces terres qui ont été labourées, ensemencées pour l'année suivante, et c'est les autres qui vont le récolter. Et c'est quand même assez particulier. On pourrait dire, bah Isaac, là, il n'est pas à la hauteur, hein, il a qu'à se défendre, il a qu'à taper du poing sur la table, il a qu'à dire, eh bien non, non, parce que moi je suis là et c'est Dieu qui m'a dit d'être là. Mais même quand c'est Dieu qui nous dit d'être là, eh bien peut-être quelquefois, eh bien, il faut faire comme Isaac. Il partit de là, parce que je voudrais vous donner une vérité. Une vérité qui nous inspire par la parole, vaut mieux céder que de résister, et c'est une question d'intelligence spirituelle, et j'ajoute ceci, car il est préférable tout simplement de jouir de l'approbation de Dieu que de s'en cramponner obstinément à d'hypothétiques, je dis bien d'hypothétiques droits humains ou terrestres, et d'avoir ça en disant « c'est à moi » et d'être empoisonné tout le reste de sa vie. Ben moi, je préfère la paix que la guerre. Vous n'êtes pas prêt de me voir avec un casque à pointe. Hein. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des antimilitarismes dans la salle. Attention. Alors, voilà, c'est ça la question. On veut quelquefois une chose, on la tient, on la garde en disant « c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi ». Puis finalement, notre vie est une vie médiocre parce qu'on n'est plus à la place que Dieu voulait. Jésus nous le dit bien, quand on vous persécute dans une vie, fuyez dans une autre. Voilà. Donc, c'est un principe aussi. Et moi, j'aime bien Isaac. Parce que finalement, il a eu cette intelligence spirituelle de dire, ils sont en train de me faire des méchancetés, ils sont en train de reboucher mes puits, ils me font mais les pires crasses, enfin, si on peut dire les choses comme ça. Et il a dit, bah écoute, il le veut, parce que vous savez, quand on est chrétien, on n'a pas en vue simplement l'usage ou le bénéfice ou le profit des choses de cette terre. Moi, je pense qu'il faut jamais perdre de vue que notre véritable patrie, notre cité, elle est en haut. Parce que finalement, vous pouvez avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle situation, avec tout ce que vous voulez, toutes les gratifications qu'on peut avoir sur la terre. Mais si vous vivez les choses, et si vous les vivez dans l'amertume, dans toutes sortes de choses qui sont difficiles, si vous perdez la santé, etc., etc., mais de quoi vous allez jouir? De rien du tout. Et il y avait une chose. Isaac, l'homme paisible, il se dit, ils le veulent, ils prennent, mais moi... Le principal, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même et non pas l'usage de tout ce qui est extérieur. Ouais, il ne veut pas être en permanence empoisonné. Et les défis se succèdent. On le voit et on le lit. Il nous est simplement rappelé, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avaient été comblés par les Philistins après la mort d'Abraham. Ah oui, Abraham, c'était un grand homme, hein, un grand homme de foi. Ben Abraham, il a donné quand même l'exemple à Isaac que quand on essaie de vous chercher des histoires, ben vous lâchez et puis c'est tout, et puis vous perdez rien, parce que Dieu est capable de nous le donner au centuple, de le multiplier. Hein. Et il leur donna les mêmes noms que son père avait donné. Il marche dans les mêmes traces. Ce puits s'appelle ainsi, ce puits. Mon père a donné le nom de ce puits-là. Ce sont les références que nous avons dans la Bible. Les marques, les signaux, la balise sur notre chemin, les mêmes noms, en quelque sorte. Alors, les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. C'était pas une citerne, c'était de l'eau où il y avait une source, la bonne eau, hein. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac. Ça vous rappelle rien? Les bergers de Loc querellèrent les bergers d'Abraham? Waouh! C'est formidable, ça! Non, c'est pas formidable, mais toujours est-il qu'il y a toujours une... pour le morceau, on est capable de faire la guerre, hein, voilà. Donc, ils ont dit, l'eau est à nous! Ben oui, c'est ça, hein. Et il y a que ceux qui finalement n'ont pas d'autre espérance que les choses de la terre, hein, tout simplement. Et il donna au puits le nom d'Ézec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, ils ont de la contenance, hein, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Ça va pas durer longtemps, hein. Et il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Eh oui. Les serviteurs, parce que c'était une nécessité de trouver de l'eau. Et les serviteurs d'Isaac, ben, vous recherchez ici, vous recherchez là. Vous allez retrouver peut-être les signes, hein, dans la poussière des puits que mon père a creusés. Et là, vous y trouverez de l'eau, parce qu'on sait qu'il y a de l'eau ici. Mais tout était bouché. Là, il est parlé de poussière. J'ai regardé une traduction. Il était bouché de terre et de pierre. Donc, la poussière, on peut la prendre à la petite cuillère, mais la pierre, ça demande un effort, hein. Ça, c'est ce qu'il nous est dit. Il creusa de nouveau, et il creusa encore. Il aurait pu s'arrêter au premier ou au deuxième en disant, maintenant, moi, ça y est, hein, on me demande de partir, mais moi, je laisse tout tomber, on va pas plus loin. Je m'imagine, parce que j'ai jamais fait ce métier, mais je m'imagine que creuser un puits, ça doit être épuisant, hein. Moi, c'est un peu le même genre, puits, épuisant, hein. Enfin, c'est moi qui le dis, hein. Ça a peut-être pas de rapport. Mais quand même. Alors, si l'eau est à 6 mètres ou 7 mètres, ça va encore. Mais on a entendu parler, quelquefois, c'est 18 mètres, 20 mètres, 25 mètres, hein. Et si vous cherchez du pétrole, ça doit être 2 ou 3 kilomètres. Et là, vous n'êtes pas prêt d'y trouver, finalement, ce que vous... Là, c'est épuisant. Ça, c'est sûr, hein. Donc. Et c'est non seulement épuisant, mais c'est incertain. Parce que quand vous creusez pour une première fois un puits, vous n'êtes pas sûr de trouver. Et que d'efforts. Mais il persévère dans l'effort. Il continue. Parce que, c'est pas autrement, hein. Mais, recreuser un puits, ça paraît facile? Non, si c'est des pierres et de la terre, c'est autre chose, hein. Déboucher, déblayer apparaît clairement dans les noms de ces puits qui ont été finalement, eh bien, retrouvés. Et là, il va y avoir un changement de nom. Il va les appeler Ézec et Sinna. Tiens, il y a un sens, parce que dans tout le vocabulaire hébraïque, il y a un sens au nom, hein. Ézec et Sinna. Ézec, ça veut dire l'acharnement des hommes adversaires. Ils cherchèrent querelle. Ouais. Et c'est peut-être finalement ce que nous avons à lutter parfois dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, et quelquefois même malheureusement, et c'est dommage, même peut-être au sein du peuple de Dieu. Des hommes qui sont adversaires. Qui sont adversaires de vous-même, adversaires parce qu'ils sont jaloux, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Et c'est quelque chose dont de recreuser, déboucher, déblayer, par fait de sabotage. Parce que c'est bien ce qui se passait, hein. Quand vous avez travaillé et que vous avez quelqu'un qui passe derrière et qui casse tout, je me dis, mais c'est désespérant. Et c'est bien le problème, j'en parle comme ça, mais c'est bien le problème de ceux qui ont travaillé dans les églises et que il y a quelqu'un qui arrive derrière et qui divise l'église. Il bouche les trous, hein. Il bouche les puits, mais la responsabilité n'est pas celui qui est passé avant, la responsabilité c'est celui qui passe après et qui n'a pas été à la hauteur, finalement, pour toutes sortes de raisons. Vous savez, il ne faut pas se glorifier de la mission ou la vocation que Dieu nous a donnée, hein. S'il y en a un qui doit être glorifié, c'est le Seigneur, c'est pas le serviteur. Donc, des hommes adversaires. Mais nous apprenons encore quelque chose, Ézec, donc des hommes adversaires, des hommes opposés, mais nous avons encore quelque chose de plus tragique et qui révèle la nature et l'origine du mal, et il est signé Sitna. Ça veut dire tout simplement origine du nom Satan. Satan, l'adversaire, le diable, celui qui s'oppose au plan de Dieu, celui qui s'oppose aux hommes de Dieu, celui qui s'oppose à l'Église, Sitna. Là, c'est signé. On peut le dire de toute manière, hein, parce que c'est clair, hein. Ça veut dire ennemi. Ça veut dire ennemi. Et il y a l'ennemi en personne qui travaille dans l'ombre. C'est l'histoire du livre de Job, chapitre 1er et chapitre 2. Et c'est l'histoire aussi de ce même ennemi qui va se servir finalement des hommes adversaires d'Isaac pour essayer de le décourager. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Écoutez, je vais quand même vous le rappeler, parce que ça c'est aussi fondamental dans le Nouveau Testament, et nous sommes finalement avertis. Il nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres, et contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Dixit, Éphésiens, chapitre 6, retenez-le bien, verset 12. Il y a tout un enseignement extraordinaire et formidable, essentiel pour les chrétiens qui vivent de la vie de l'esprit. Parce que nous voyons là le dévoilement de la nature. Nous ne sommes pas seulement dans un monde neutre, mais nous sommes dans un monde d'hommes, mais un monde où il y a aussi tout un arrière-plan diabolique, invisible, mais diabolique. Ça, c'est une chose qu'il faut se souvenir. Toutefois, vient le temps, parce qu'il y a toujours un temps, frères et sœurs. Il y a un temps de famine. Il y a un temps où on mouille sa chemise à faire des efforts, à creuser les puits, à les déboucher, etc. Il y a un temps où nous avons à lutter contre les hommes, que nous avons à lutter contre les puissances mauvaises. Mais il arrive un temps dans la vie où, tout simplement, il y a la victoire complète. Et ça, fallait pas terminer ce message sans vous dire qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et le verset 22, il est dit ceci. Isaac se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Merci Seigneur. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Rehoboth, mis au large. Élargissement. Affranchissement. Nous avons été affranchis par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été affranchis parce que Jésus a dit ces paroles. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons été affranchis parce que nous avons cru dans la justice que Christ a accomplie à la croix du calvaire. Et qui dit affranchissement, dit liberté. C'est à cela que nous avons été appelés, à la liberté. Enfin, pour arriver à Rehoboth, il faut passer par Ézec. Il faut toucher un petit peu dans le contact involontaire de notre part, mais les provocations avec Sinna. C'est l'évocation des tribulations que l'on surmonte que par la foi, la patience, la persévérance et la ténacité. Que nos cœurs soient fermes, mes frères et sœurs. Tenez donc ferme contre les ruses du diable. Ça, c'est important. Et que nos puits encombrés, que de puits à déblayer et à redonner usage et vie. Moi, je dis que bravo Isaac, il était vraiment le puisatier de Dieu. Eh oui, puisatier de Dieu. Et je pense qu'il faut maintenant, mes frères et sœurs, par rapport à nos obligations extérieures, nos peines et nos chagrins à l'extérieur. Par rapport à nos conflits, nous aussi, quelquefois, dans le fond de notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées, nous avons enlevé les pierres, la poussière et la terre qui a été jetée dedans. Ouais, pour que véritablement, eh bien, nous retrouvions l'usage d'une véritable vie spirituelle. Et par-delà l'usage, eh bien, la vie elle-même. Je termine par un proverbe au chinois. Alors, je vais vous le traduire en français, hein. Vous riez jaune. Bon, écoutez bien. Celui qui a déplacé la montagne est celui qui a d'abord commencé par enlever les petites pierres. Que Dieu nous bénisse maintenant. Que Dieu nous donne sa grâce. Oui, celui qui a déplacé la montagne, il a commencé par enlever les petites pierres. Merci Isaac. Merci pour l'encouragement que tu nous donnes. Et là, nous pouvons tout simplement sourire du sourire de Dieu, parce que c'est lui qui est victorieux. On va prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta parole. Elle est toujours enrichissante. Pour nous, Seigneur, ta parole, c'est une merveille. Elle fortifie nos cœurs et nos esprits. Ta parole, elle est véritablement, Seigneur, la douceur. Elle est la grâce de Dieu. Elle est ce qu'il y a de meilleur pour les enfants, tes enfants qui t'appartiennent. Nous te rendons grâce et nous te remercions parce que Jésus a été sur la croix. Et c'est parce qu'il s'est élevé au-dessus de nos puits, au-dessus de nos fournaises, au-dessus de nos chagrins et de nos larmes, parce qu'il a compris, parce qu'il a réussi, Seigneur, à vaincre ses ennemis, mais nos ennemis en même temps, eh bien aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons parce que si Christ a été victorieux, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, qui peut-être là, eh bien, d'une façon ou d'une autre, en son genre, peut-être quand ils regardent au fond de leur cœur ou dans leurs pensées, eh bien, ils sont remplis dans le puits que tu as ouvert, parce qu'au fond du puits, il y a de l'eau, l'eau de vie, l'eau de la vie. Alors à ce moment-là, Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à dépoussiérer. Viens nous aider à dépierrer. Viens nous aider à déblayer tout ce qui nous encombre et qui fait que, en effet, Père éternel, nous ne vivons pas totalement heureux. Seigneur, nous croyons que Sinna a été vaincu, Satan a été vaincu. Nous croyons que tous nos ennemis, Abimélec et puis tous ces gens-là, remplis de jalousie et de convoitise, ils ont été vaincus parce que toi, tu as vaincu dans notre corps, dans notre cœur, toutes ces choses qui sont mauvaises et nous n'avons pas rivalisé avec les autres. Nous sommes ce que nous sommes et c'est bien. Nous sommes en Jésus-Christ. Seigneur, visite mes frères et mes sœurs qui s'interrogent. Pourquoi il y a ceci ou cela? Eh bien, tu n'es pas venu pour nous perdre, mais tu es venu pour nous sauver. Tu es venu pour que nous ayons vraiment la liberté, parce que cette liberté, nous l'avons en Jésus-Christ. Alors, tu nous rappelles, Seigneur, de ne pas nous remettre tout à nouveau, à empirer nos puits, pour que véritablement nous puissions pas, eh bien, nous désaltérer de cette eau fraîche, de cette eau spirituelle, de l'eau du Saint-Esprit, qui coule comme une source, jusque dans notre sein, et jusque dans la vie éternelle. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.